Man kann die Relevanz eines Kunstwerkes für eine Kultur erst im Nachhinein beurteilen.
Le 8 mai 2011, le GMEM proposait à La Friche, dans le cadre du Festival de musique contemporaine Les Musiques, une journée de programmation dans laquelle alternaient projections de films, concerts, rencontres et 7 DJ. Une programmation construite en partenariat avec les actions culturelles d'Arte. Nathalie Semon, bonjour. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que Arte Action Culturelle ?
Eh bien, Arte Action Culturelle, c'est un département qui a vu le jour après la création de l'antenne et qui accompagne chaque année en France des événements culturels dans tous les domaines artistiques, le cinéma, la musique, les arts plastiques, la photographie, à différents niveaux. À chaque fois, ce sont des projets que nous, sur lesquels nous collaborons avec des acteurs culturels, voilà, pour créer des rendez-vous pour le public.
Vous étiez pour ce dimanche 8 mai aux côtés du festival Les Musiques à Marseille pour une journée de programmation intitulée Les Écrans d'Arte. Peut-être sur les raisons de ce partenariat, qu'est-ce qui vous a poussé à vous associer à ce festival de musique contemporaine ?
Eh bien, c'est le deuxième partenariat avec le Festival des Musiques. L'année dernière, c'est le festival qui nous a contactés et j'ai trouvé à la fois la programmation très intéressante, évidemment, et puis aussi il y a une chose qui m'a séduite, c'est le tarif unique pour tous les concerts. Qui, à mon sens, fait écho à la démarche que nous avons aux actions culturelles, qui est de favoriser la rencontre des œuvres et l'accès du public à toutes les manifestations.
Ce festival Les Musiques rend en effet accessible cette musique contemporaine qu'on a parfois tendance à ranger dans le registre des musiques savantes. Alors justement, à propos de la programmation de cette journée qui mêlait des films mais aussi des concerts, des 7 DJ, cette programmation elle a été co-construite avec le festival Les Musiques ?
Voilà, tout à fait. L'année dernière, on avait accompagné une installation qui s'intitulait Corpus. Et puis cette année, on avait envie de créer un vrai rendez-vous pour le public, quelque chose qui soit le fruit d'une collaboration avec le festival. Et on est parti d'emblée sur l'idée d'un parcours pour le public, le festival ayant mis à notre disposition toute une soirée. J'ai fait des propositions de films et puis très vite nous sommes tombés d'accord sur deux portraits, un portrait de Ligeti et un portrait de Steve Raj. Et la soirée s'est construite petit à petit autour de ces deux films avec le parti pris de présenter de la musique filmée, de la musique interprétée avec des citations musicales entre les films. Pourquoi pas un échange avec le public et en fin de soirée, pour garder un esprit convivial, de la musique mixée avec un set de DJ.
Kirvili a été un pays surréel, impossible. Peut-être il y a seulement des nuages, peut-être seulement des lumières, des monstres. J'ai dessiné beaucoup de cartes des villes et des régions, des îles. J'ai inventé une langue kirvilienne, j'ai inventé toute une société utopique. C'est le paradis du peuple, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu un paradis, mais c'est un paradis qui ne fonctionne pas. C'est un peu aussi un symbole des anciens pays de l'Est de l'Europe.
Deux films donc, l'un consacré à Gheorghe Ligeti, l'autre à Steve Reich, deux compositeurs qui sont relativement bien perçus par un très large public. C'était un choix délibéré ?
Oui, et puis aussi parce que ce sont deux films très beaux. et qui sont très accessibles, qui donnent à comprendre très bien la façon dont les compositeurs travaillent, et aussi on entre un peu dans leur intimité à travers leurs récits. Donc c'était une façon d'approcher la musique plutôt assez facilement. Voilà, les citations musicales qui venaient entrecouper les projections étaient là pour évidemment donner concrètement un exemple, affiner la rencontre avec les œuvres.
Merci Nathalie Semon.
Merci à vous.
When I was very young, it was just reaching up to the piano keyboard. I think my youngest, when I was too short to reach it, and just playing fifths. I realized later they were fifths, like C and G over and over, and singing what I call cowboy songs. I began taking piano lessons, I think, around 7 years old, or something around like that. Very boring, ordinary piano lessons, simplified versions of Haydn and Bach, but not really Bach and not really Haydn and not really Jet, not really anything. And I did it because I was asked to do it, but it wasn't until I was 14, rather late, that the fire was lit. At the age of 14, a couple of friends had recordings who said to me, hey, take a listen. And one of them was The Rite of Spring. One of them was the fifth Brandenburg Concerto of Johann Sebastian Bach. And the third was Bebop, played by Charlie Parker and Miles Davis and the drummer Kenny Clarke. And these music were like, it's like a revelation. And it's as if someone said to you, okay, you're 14 years old and you've never seen this room in our house, and you open the door and you walk in and you love it and you close the door, and I've been living in that room the rest of my life.
Éric Darmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de Face to Face, un film qu'on a pu voir présenté dans le cadre du festival Les Musiques, et plus particulièrement pour une journée de programmation intitulée Les Écrans d'Arte.
Alors, il faut vous dire déjà que j'ai co-réalisé ces documentaires avec Franck Mallet. Donc Franck Mallet est journaliste et lui un grand spécialiste de la musique contemporaine. Donc c'est notre association qui nous a permis d'avancer dans ce travail que nous faisons sur la musique contemporaine. Quant à Steve Reich, bon, ça c'est un désir qui date de 1976, le moment où j'ai rencontré Steve Reich pour la première fois, en musique évidemment, dans ma chambre d'étudiant. Et là j'ai vraiment voulu, de ce jour-là, rentrer dans cette découverte qui est la musique contemporaine et surtout la musique répétitive américaine et tout ce qui a entouré cette musique. Ce désir date depuis très très longtemps, vraiment ce projet de faire des films sur la musique contemporaine date depuis très longtemps, et aujourd'hui je suis en salle de montage où je suis en train de monter le début de un film sur les percussions de Strasbourg. Donc vous voyez, on baigne maintenant dans Messiaen, Boulez, Xenakis, voilà.
Alors justement, entre ceux que vous venez de citer, Messiaen, Boulez, Xenakis, et puis de l'autre côté, Pierre-Henri, Philippe Glass ou Steve Reich, c'est à la fois la même génération de musiciens, mais en même temps, ce sont deux attitudes complètement différentes à l'égard de la musique.
Oui, absolument. Steve Reich le dit très bien dans le film, qu'il a décidé, lui, de passer sur un autre registre. Très vite, il s'est aperçu que ce n'était pas sa musique et que c'était pas ce qu'il ressentait le plus, et que le travail qu'il a fait de découverte et de relation qu'il a eu avec la musique africaine, avec la musique indienne, lui a apporté cette découverte de la musique répétitive, au même titre que Philippe Glass, dans son film, lui, il raconte que découverte de la musique répétitive était vraiment un apport du théâtre de l'époque, de la musique indienne, et chacun, ils sont retrouvés finalement tous les deux dans les années 70, puisqu'ils travaillaient ensemble et ont commencé sur le même chemin. Plus tard, ils se sont séparés, mais ils sont toujours de cette même école, comme Terry Riley, mais évidemment le père spirituel étant John Cage.
went through college, I went early when I was 16 years old in 1953 at Cornell University, and I finished with a degree in philosophy in 1957. And I was actually accepted at Harvard as a graduate student in philosophy, and I said, I can't do this. I love music and I want to compose it.
Alors, vous avez rencontré la musique probablement enregistrée de Steve Reich dans votre chambrette dans les années 70, mais à quel moment et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Steve Reich en vrai ?
Alors, Steve Reich, donc c'est tout un travail de production et de réalisation. C'est la démarche que nous avons suivie, qui était une démarche un peu calquée sur celle de Philip Glass, c'est-à-dire d'abord l'idée de convaincre une chaîne de télévision d'accepter de faire un film sur Steve Reich, au même titre que Philip Glass ou Pierre Henry, de façon systématiquement, c'est ce qu'il faut faire. Mais avant de pouvoir convaincre une chaîne de télévision, il faut déjà écrire un projet et savoir si le personnage est disponible et quelle est son activité. Donc il y a tout un travail à la fois concomitant de production et de réalisation qui consiste à savoir si l'année qui arrive est une année propice à exécuter un certain nombre de tournages dans lesquels il y aura des œuvres à la fois de création et en même temps des œuvres anciennes. Nous avons eu la chance pour Steve Reich dans l'année 2007-2008 d'avoir entre autres au Havre la présence de Steve Reich qui lui a non seulement joué et exécuté des œuvres anciennes mais aussi des œuvres contemporaines, enfin récentes. Donc on a eu cette chance avant même d'avoir l'accord d'Arte, Mémoire Magnétique, c'est-à-dire ma société de production, s'est lancée dans la production des tournages. Donc petit à petit nous avons engrangé, donc si vous avez vu le film, donc Le Havre, à Tokyo et même Rome, ce sont des tournages qui ont été effectués avant la signature concrète avec Arte. Donc Mémoire Magnétique a pris beaucoup de risques, mais en même temps Steve Reich ayant donné son accord, nous jouions quand même sur un terrain favorable.
Sur la forme de ce film, classiquement, le film consacré à un musicien alterne souvent des moments d'interview et des moments où on voit ce musicien en situation de jeu. Vous avez essayé de complexifier un petit peu plus ce schéma un peu simple, et notamment si la musique de Steve Reich est minimale ou minimaliste, vos images, elles, ne le sont pas du tout. Elles sont en revanche extrêmement travaillées. Éric Darmon.
Oui, alors il y a deux types d'images, il y a trois types d'images en réalité. D'abord, je veux rendre hommage à deux personnes qui ont été très très importantes dans ce travail. C'est Timothée Miller, mon monteur, qui est à côté de moi pour ce prochain film, et Michel Bluchstein, qui lui a travaillé sur la création graphique de tout le film, que ce soit l'habillage et les effets qui sont l'illustration, pas vraiment l'illustration, mais l'évocation des œuvres de Steve Reich qui ne sont pas jouées sur scène. Donc en réalité, il y a trois types de trois niveaux finalement d'écriture. Il y a l'interview qui est vraiment une sorte de face-à-face où Steve nous raconte sa vie, son histoire, vraiment avec beaucoup de générosité. Il y a les tournages en situation de représentation, concerts. Alors là, nous en avons au Havre, comme j'ai dit tout à l'heure, en Italie, à Rome, à Tokyo et en Angleterre. Et puis, il y a un troisième niveau d'écriture qui est celui donc travailler avec Michel Buchstein, qui est ce travail donc graphique qui nous a permis donc de retravailler, de revisiter les œuvres emblématiques de Steve Reich qui n'avaient pas de représentation visuelle. Donc entre Michel Buchstein, Timothée Miller, voilà, on a réussi, et les images que j'ai tournées, on a réussi cette prouesse de finalement de faire cette rencontre. C'est pour ça qu'il y a eu ce jeu de mots qui est face to face, qui est en fait un face à face en phase. Voilà.
Merci Eric Darmon.
Plaisir, merci beaucoup.
Donc je suis Julien Boutin, bonjour, je suis altiste du Quatuor Bella.
Et moi je m'appelle Frédéric Aurier et je suis l'un des violonistes.
Le Quatuor Bella qui se produit aujourd'hui dans le cadre de cette journée des écrans d'Arte, dans le cadre du festival Les Musiques, dans une programmation qui s'efforce très largement de mixer les publics, programmation aux grandes tables de la Friche, dans un rapport au public sans doute assez différent de celui d'une salle de concert classique. Mais ceci dit, je crois que vous appréciez beaucoup ce genre de confrontation, ce genre de rapport au public un peu différent.
Oui, effectivement, c'est vrai que il s'agit d'un restaurant, et il nous est arrivé souvent de jouer soit dans des bars, soit dans des squats, soit dans des configurations effectivement qui sont pas la configuration frontale traditionnelle du concert.
Vous jouez à la fois dans des festivals qui sont reconnus comme des festivals de musique contemporaine, celui-ci en est un, mais aussi dans des circonstances ou dans des formes totalement différentes. Je pense à Africolor, par exemple, et donc là, dans un lien avec d'autres cultures, d'autres formes de création.
Oui, tout à fait. Dans le cas d'Africolor, on nous a vraiment commandé un concert avec un griot malien. Ça a été une expérience très très belle et une expérience qui continue parce qu'on joue maintenant assez régulièrement avec ce griot qui s'appelle Moriba Koita. Et donc c'est tout de même un concert dans lequel on peut jouer aussi notre musique contemporaine, et ça avait été l'occasion à l'époque de jouer devant une salle remplie de 400 personnes d'origine malienne, de jouer des pièces contemporaines dont ils n'avaient peut-être pas l'habitude d'entendre.
Votre musique, votre répertoire est très hétérogène. Il y a des œuvres plutôt pointues de Ligeti, du Tilleux. Il y a aussi des collaborations, comme avec ce griot que vous citiez à l'instant, d'autres avec Fantasio, par exemple, donc un champ d'action extrêmement large. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée peut-être un peu étroite de répertoire est devenue obsolète pour un ensemble contemporain comme vous ?
Oui et non. Oui et non, dans le sens où, effectivement, par hasard ou pas par hasard, on a rencontré beaucoup de personnes et de champs, effectivement, et d'horizons très divers. Pour autant, je pense qu'il est important de garder les caractéristiques et les cultures de chacun, et pas faire une fusion ou un mixage qui tendrait de tout mettre au même niveau. Et c'est ça qui fait que c'est riche et qu'on ne tombe pas dans un mélange de folklore, finalement, parce que ça revient très rapidement à ça. Donc non, je dirais quand même que nous, on développe un répertoire de musique écrite, c'est-à-dire des partitions écrites par des compositeurs qui ont élaboré savamment et dans le secret de leur chambre ces pièces. Ce qui ne nous empêche pas parfois de rencontrer et de nous enrichir avec des musiciens qui, eux, en général, sont plutôt dans une instantanéité et un rapport au public qui, par contre, leur permet de l'apprendre différemment.
Alors, sur les compositeurs, justement, est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de compositeurs écrivent pour cette forme particulière qu'est le quatuor ? Est-ce que ce sont des commandes ?
Alors, oui, c'est en général effectivement des commandes, puisque le temps d'élaboration d'un quatuor, c'est très long. C'est une forme ultra classique, hein, le quatuor à cordes, et qui a pour tradition d'avoir été un peu un point d'achoppement pour tous les compositeurs qui s'y sont frottés. Bon, évidemment, on pense à Haydn, Beethoven, Schubert, enfin, tous ont mis un point d'honneur à écrire pour cette formation-là des œuvres particulièrement complexes, élaborées et abouties. Donc aujourd'hui, le processus est exactement le même. Alors, c'est un exemple frappant chez Ligeti, où il s'agit quasiment d'une œuvre qui peut, d'une certaine manière, synthétiser son art et son langage. Donc nous, on se lance dans effectivement des commandes à des jeunes compositeurs. Il nous faut pour ça trouver des sous qu'on prend généralement, on fait à l'ancienne, on fait une petite collecte à chaque fois qu'on fait un concert. On prend un petit peu de l'argent sur nos cachets, ce qui nous permet à la fin d'avoir une petite pelote de laine qui fait qu'on achète en fait des œuvres à des compositeurs.
Écriture, des compositions dans des registres très différents les uns des autres, et je pense notamment à Albert Marker, plutôt dans un univers rock'n'roll, ou bien Jean-Claude Drouet, plutôt quelque chose jazz, là cette fois-ci avec une couleur de jazz. Donc au fond, les musiques contemporaines que vous interprétez, elles ont un champ très très large, et elles incluent aussi ces démarches un peu rock'n'roll.
Alors, c'est vrai qu'Albert Marker, là, c'est par exemple, c'est quelque chose où la voilà, c'est un univers où la frontière se devient extrêmement poreuse, puisque effectivement, Albert Marker, c'est un rocker dans l'esprit aussi, dans cet esprit de rébellion, d'indépendance absolue, de volonté qui nous a complètement effaré quand on l'a rencontré, parce qu'on a reçu une leçon, on pensait être un petit peu gentiment alternatif quand même et frondeur, et quand on l'a rencontré on s'est dit ah oui on a encore on a encore un peu de chemin. Mais il n'empêche que Albert nous a écrit de la musique, voilà, il a écrit pour le Quatuor Bella.
Thank you.
c'est un troisième membre du Quatuor qui nous a rejoint.
Luc Denry, le violoncelliste.
Est-ce que justement, là, on est trois sur les quatre de ce Quatuor, est-ce que en action de concert, il vous arrive aussi d'avoir une géométrie variable, c'est-à-dire de rejoindre un ensemble plus important, par exemple, ou bien de vous présenter vous-même sous forme de duo ou même de solo?
Oui, ça a dû nous arriver quelques fois pour les besoins peut-être d'une monographie, puisque par exemple, si on décide de faire un concert Ligeti, eh bien, il y a la très belle sonate pour violoncelle seule qui fait que du coup on l'inclut au programme et du coup Luc s'y colle. Et voilà. Mais en général, c'est vrai que bon, le travail de Quatuor est un travail très long et patient, ce qui, tout simplement mécaniquement au niveau du temps dont on dispose dans la vie, ça nous empêche parfois d'explorer très loin les possibilités qu'on peut avoir avec d'autres, puisque déjà il faut travailler cette homogénéité qui fait la spécificité et la qualité du Quatuor à cordes. Alors ce soir, donc, c'est un cinéma-concert d'une certaine manière, puisqu'il y a deux films qui sont présentés, l'un sur Giorgi Ligeti de Michel Follin, qui est absolument fabuleux comme film, qui donne la parole en fait à Giorgi Ligeti, ce compositeur qui a traversé différents totalitarismes, enfin celui de l'URSS et puis le nazisme. Et il a, par rapport à son parcours et par rapport à ce que peut être la musique contemporaine, ce que doit être la musique contemporaine, c'est-à-dire un langage en permanence innovant qui nous interpelle et qui lutte, en fait, qui lutte à plein de niveaux différents. Voilà, très très beau film. Et donc, à la suite de ce film, on va jouer le deuxième Quatuor de Ligeti en 5 mouvements. Puis après, il y a un deuxième film qui est sur Steve Reich. Et après, donc, nous jouons des minimalistes. Alors, on fait une petite pièce de Reich. On joue, bien sûr, Philip Glass, second Quatuor. Et après, on a pris la liberté de jouer des gens qui se sont inspirés du minimalisme, comme Kevin Volant, qui est, lui, un compositeur sud-africain, mais blanc. Et, justement, Albert Marker, qui, en fait, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'était conscient chez lui, mais qui a de toute évidence été... Il a subi l'influence des minimalistes.
Qu'est-ce qui fait pour vous le succès de cette musique minimale ou minimaliste américaine des années 60, 70, 80 et qui continue aujourd'hui à susciter encore beaucoup de plaisir pour le public? Qu'est-ce qui fait son succès selon vous?
Je crois que c'est... C'est vraiment le moment où la musique savante s'est reconnectée à la musique pop, à la musique rock, à la musique électro par la suite. Enfin, la connexion est assez évidente. Et d'ailleurs, le public, je crois, de cette musique minimaliste est assez bigarré, assez composite. Et d'ailleurs, dans les milieux de musique contemporaine, musique savante pure et dure, c'est une musique qui fait polémique en réalité. Parce que beaucoup de compositeurs, de musiciens crient à la trahison devant l'apparente simplification de l'écriture. Mais alors, on a toujours cherché à aller de l'avant, à trouver de nouvelles choses, et là, on revient vers des accords parfaits, on revient vers une chose binaire qui se répète, mais c'est une régression. Beaucoup de gens réagissent comme ça face à cette musique. Bon, c'est évidemment une façon de la voir qui est très, très, très incomplète, très parcellaire, puisque c'est un travail qui joue sur bien d'autres choses, comme le temps, évidemment, le déroulement du temps, la perception auditive ralentie, les changements très étalés, etc. Enfin, voilà, mais je crois du coup qu'elle a su toucher, par contre, un autre public.
C'est une musique qu'on croit plus simple, alors qu'en fait, elle est d'une grande complexité. Elle est d'une complexité d'interprétation aussi, difficile à interpréter.
Oui, oui, très, très, très délicate. Pour l'interprète, il s'agit de se mettre justement dans le temps de cette musique qui n'est pas un temps, un tempo forcément très biologique parfois. Il faut vraiment se mettre au ralenti. Le fait de répéter longtemps quelque chose peut devenir fatigant si on se prépare pas un petit peu, même physiquement. Et puis il faut une concentration aussi spéciale parce que c'est une musique qui est éventuellement hypnotique, qui provoque la transe, ce qui est très bien pour l'auditeur, mais ce qui pose un léger problème pour l'interprète, il ne faut pas se laisser aller. Par contre, quand on la joue à l'hypnotisme, donc oui, on peut être les premières victimes de cette musique quand on la joue parfois.
Bonsoir à tout le monde, c'est Sarah, enchantée.
Bonjour Sarah, Anna Sara d'Aversa, avec Alessandro Giovannucci. Vous êtes tous les deux DJ, mais vous êtes aussi, pour remonter un petit peu plus loin dans votre histoire, vous êtes docteur ou doctorant avec un brillant parcours universitaire, tous les deux, en musique ou en esthétique. Qu'est-ce qui vous a conduit devant les platines, ras-le-bol des cours, bye bye les savants, on va faire des rêves parties?
Bah, nous a amené surtout le hasard d'une partie de notre parcours qui évidemment a une tendance à aller dans cette direction de la musique contemporaine, des répertoires, mais avec un regard le plus écarté possible sur des autres voies musicaux et sur d'autres possibilités. Et puis le hasard du rencontre avec Laurent Jacquier et le cabaret contemporain qui a fait en sorte de catalyser notre intérêt et notre capacité de DJ qu'on a acquis dans la jeunesse, parce qu'on était quand même des DJ des autres genres de musique plus dansante et populaire. Mais on s'est dit avec Laurent, pourquoi on n'essayerait pas de trouver un lien entre ce qu'on connaît et ce qu'on peut faire.
Laurent Jacquier, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, comment ça s'est fait ce lien?
En fait, voilà, au cabaret contemporain, on essaye de proposer autrement de faire écouter la musique contemporaine. Donc, j'avais lancé tout simplement un appel à projet sur la toile en disant, bah voilà, recherche DJ activement pour mixer la musique contemporaine. Parce qu'aussi bizarrement que cela puisse paraître, c'est une proposition qui reste assez inédite. C'est-à-dire que d'habitude, la technique du DJing, elle est pour d'autres répertoires, celle qu'on connaît tous, plus ou moins, l'électro, le rap, etc. Et alors qu'en fait, comme vous allez voir ce soir et l'entendre, il y a des pièces qui s'y prêtent très très bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a construit ça ensemble.
Sarah, DJ ou platiniste ?
Ben, je crois qu'on ne peut pas se mettre d'une façon ou de l'autre. Il faut toujours faire des mélanges, des syncrétismes. Je ne sais pas si ça existe en français. Il ne faut pas il ne faut pas enlever des possibilités à la musique contemporaine, sinon on va la tuer. Et du coup, je ne sais pas, le platinisme, oui, mais je crois qu'il faut tout simplement mélanger, accueillir, héberger toutes les possibilités que dans la contemporanéité sont disponibles. C'est que ça. Il faut accueillir le matériel musical.
Accueillir de nombreuses possibilités, notamment celles qui s'offrent dans l'instant par l'improvisation, une improvisation par ailleurs découverte par un grand compositeur de musique contemporaine, Alexandros Markéas.
Oui, bah d'ailleurs qui a été dont il y a eu un concert il y a quelques jours, et d'ailleurs le cabaret contemporain travaille avec Alexandros Markéas, et outre les DJ, on travaille avec un ensemble de musiciens qui sortent de la classe dite d'improvisation générative au Conservatoire National de Paris. Donc effectivement c'est complètement dans cette mouvance là et Alexandros par exemple, ses compositeurs sont très contents qu'on leur propose de jouer dans des cas différents de là où on leur propose de jouer d'habitude.
Et tous les deux, ça vous dérange pas de mixer pendant que des gens sont en train de boire un coup, sont en train de manger un morceau? C'est pas du tout dans le rituel sacré de la musique contemporaine. Petit toussotement, silence, la baguette se lève, ça commence là pas du tout.
Bah, en fait, c'est ça le but principal des soirées qu'on propose avec les cabarets contemporains, essayer de faire connaître. C'est justement le fait que les formats musique contemporaine ou savante, on met des guillemets un peu partout, on le connaît bien, on l'aime, il marche bien, mais comme on écoutait dans le passé la musique de façon différente, Haydn, Handel, il aurait pas trouvé un scandale qu'on mange pendant leur performance, et ben alors pourquoi pas essayer de tracer des liens avec ce qui a été et qui peut être à nouveau, ou essayer de voyager un peu dans les moyens d'écouter.
Et d'ailleurs, rappelons que, par exemple, Mozart, les concertos pour piano de Mozart, les gens mangeaient, éclataient de rire. C'était conçu comme des divertissements, alors que les seconds mouvements de concertos pour piano de Mozart, c'est pas précisément à mourir de rire. Mais il y avait ce cadre-là, c'était même sexuel par moments, etc. Considéré comme des grosses orgies, etc. D'ailleurs, Markéas avec ce Dionysos, etc. C'est vraiment ça. C'est vraiment le goût. D'ailleurs, les compositeurs adorent bien manger. C'est très lié. C'est pour ça qu'on est aux grandes tables aussi.
Peut-être sur les formes musicales que vous développez constamment sur des frontières, en fait, vous allez puiser dans le répertoire contemporain, mais peut-être aussi y injecter des éléments de pulsation, des éléments rythmiques qui viennent d'autres horizons. Qu'est-ce que vous mixez, en fait? Comment vous mixez?
Et on mixe en essayant de tracer un parcours qui soit surtout lié à une homogénéité timbrique. Parce que les discours rythmiques, c'est très important, mais il faut, je trouve, les traiter vraiment de façon très, très fin. Sinon, on risque vraiment de... Parce que le mot DJ, c'est un mot ambigu. Il risque d'être perçu comme quelqu'un qui arrive et puis il rajoute une pulsation plus ou moins forte sur quelque chose qui existe déjà. Alors que nous, quand on mixe, on essaie de se donner le maximum de choix dans le répertoire et voir ce qui va avec, mais comment il passe dans les machines, c'est en fait un peu hybride entre un DJ set et un morceau d'électroacoustique, comme une longue plage sonore dans laquelle, comme une vague, des sons sortent, puis s'étouffent.
Donc c'est pas tellement avec le tempo que vous allez accorder des morceaux, mais plutôt avec des couleurs timbrales.
Oui, plutôt avec des ambiances sonores, avec des dimensions de son. Oui, c'est pas le tempo, la pulsation, c'est pas quelque chose qui forcément nous sentons obligés à utiliser. C'est pas ça.
Bien qu'il y ait évidemment des morceaux pulsés, tout ce qui a été fait au niveau de rythme dans la musique du XXe siècle, on le connaît, on essaie de jouer avec. C'est juste l'idée de ne pas être esclave de la rythmique, mais l'utiliser exactement comme un paramètre musical, comme les autres, et pas lui donner plus ou moins d'importance. Il y a une projection des documentaires sur Steve Reich et Ligeti avant, notamment. Donc, on a pensé d'écrire notre histoire dans cette ambiance. Donc, il y a référence à ces deux compositeurs, qui sont des compositeurs majeurs de la musique contemporaine. Et à ça, on a rajouté des sons fabriqués à moi et Sarah, et des autres sons des autres compositeurs, qui ne sont pas forcément Ligeti et Steve Reich, qui ne peuvent pas épuiser, évidemment, toute la palette des compositeurs du XXe siècle. Et dans tout ça, on essaie de tracer un parcours qui a évidemment des mouvements accélérés, des mouvements de relâche, comme une sorte de, je vais dire un mot, de symphonie digéique, si on peut dire.
Voilà. Là-dedans, des sons que vous avez fabriqués, donc que vous avez là dans une petite boîte prête à être utilisée, qu'est-ce que c'est comme son ?
Et ce sont des sons en fait qui viennent d'une dimension qui viennent d'une dimension d'un jeu de rôle notamment, et auquel on a joué il y a un an, et on a pensé de transformer cette dimension de jeu dans une dimension sonore, et on a essayé de nous raconter l'histoire qu'on a jouée à travers nos machines et notre répertoire de sons.
Jeu de rôle ce soir donc avec Ciné Réquillier, Sans Repos, c'est ça, oui. De DJ Anna Sara D'Aversa et Alessandro Giovannucci pour Cabaret Contemporain dans le cadre de Les Musiques, festival proposé par le GMEM. Peut-être un mot pour conclure sur les prochains développements de Cabaret Contemporain, d'autres projets, d'autres lieux au cours de cet été.
Bah on a ces DJ, on les fait aussi dans des lieux complètement hauts, tels que des patinoires par exemple, qu'on a fait dernièrement à Paris. On refera aussi dans le cadre de scène nationale aussi, enfin tout ça sur le site du Cabaret Contemporain. Voilà, cabaret-contemporain.com.
Merci aux DJ du Cabaret Contemporain. Vous écoutiez un reportage sur la journée du 8 mai intitulé « Les écrans d'Arte » dans le cadre de l'édition 2011 du festival Les Musiques proposé par le GMEM. un festival qui s'achève demain 14 mai avec un récital d'alto au musée Cantini, c'est à 12h30, et à la Friche la Belle de Mai à partir de 19h, concert avec le quatuor Diotima autour de compositions de James Dillon, Andrei Adamek et Steve Reich. Plus d'infos sur le site www.gmem.org.